Bonjour à tous, et cet après-midi je vais vous parler des techniques diagnostiques, c'est-à-dire ça va être une suite de la cour la dernière fois dans laquelle on va finalement augmenter la variété des techniques qu'on va utiliser. Alors le plan de l'exposé aujourd'hui va être le suivant. Dans un premier temps, je vais vous montrer le découplage des aspects thermodynamiques et chimiques au niveau de la batterie et quelles sont les informations qu'on peut en déduire au niveau de la SEI, qui est la fameuse interface tout solide. Ensuite, on va essayer de modifier ces réseaux de Bragg et pour vraiment rentrer dans la chimie des batteries et voir quelles sont les astuces, les techniques, les nouvelles configurations qu'il va falloir mettre au point. Et c'est là où on va voir l'importance du champ évanescent pour tester l'aspect chimique. On verra différentes sortes de capteurs qui vont être déduits des capteurs à réseau de Bragg, des FBG, et ainsi de suite, pour enfin introduire les fibres microstructurées ou les fibres plasmoniques où cela prend des applications au niveau de la biologie et des batteries. Et finalement, je terminerai par des capteurs de type relais et voir des capteurs thermoluminescents. Alors tout d'abord, au point de vue de la batterie, de la SEI, eh bien, ce que l'on regarde, c'est ici une expérience dans laquelle vous avez la variation du potentiel de la batterie, comme indiqué ici, la mesure de delta T déduit par la fibre optique, et également, dans le cas d'une fibre optique microstructurée, vous avez ici la pression qui est déduite. Et vous voyez, lors du premier cycle, on a un pic au niveau delta T, une augmentation de pression, et ces deux anomalies disparaissent lors de la décharge. Et ensuite, lorsqu'on va cycler, on s'aperçoit qu'elles n'apparaissent plus jamais. Tout cela veut dire tout simplement qu'elles sont associées à cette fameuse croissance de SEI, et maintenant on va pouvoir transformer ou connaître quelles sont les métriques en termes de chaleur et en termes de pression associées à ce pic correspondant à la SEI. Et à partir de cela, eh bien on va pouvoir, si je peux dire, faire du tamisage d'électrolytes et déterminer, comparer quels sont les meilleurs électrolytes. D'où, ayant cette possibilité, on va maintenant voir ce qui se passe lorsque je compare différents électrolytes. Alors ici, je prends un électrolyte du type NP30, dont les constituants sont indiqués, et je vais faire des mesures à 25 degrés et à 35 degrés, à 55 degrés. Et si on regarde les signaux optiques, où les signaux optiques ont été convertis en chaleur et en pression, eh bien on s'aperçoit tout simplement que la quantité de chaleur est voisine de 2 à 3 fois plus importante à 55 degrés qu'à température ambiante. Ça veut dire qu'en ce cas, il y a des réactions qui sont significativement accélérées, ce qui n'est pas une surprise. Et ce qui est intéressant aussi, si vous voyez la pression, bien on a une augmentation de pression qui est à peu près doublée, voire triplée, lorsqu'on passe à 55 degrés. Donc cela indique que définitivement, ces signaux représentent bien ce qui se passe au niveau de cette SEI. Alors ensuite, on peut comparer des électrolytes différents. Et là, on va comparer avec un électrolyte qui a été confectionné au laboratoire, qu'on appelle un électrolyte du type NP30, avec de nombreux additifs qui sont indiqués ici, notamment le carbonate bilidène, et ainsi de suite. Et on s'aperçoit que dans ce cas, vous voyez, on a également les mêmes pics associés à la SEI, avec une différence essentielle, c'est que ce pic arrive bien plus tôt dans le cycle de charge et a une énergie qui est relativement plus faible. Et vraiment intéressant, c'est que maintenant, vous voyez que l'énergie plus faible et également la pression lors de la formation de cette SEI est fortement diminuée. Et tout cela a des conséquences importantes, parce que si maintenant on regarde les performances des accumulateurs en cyclage, et on s'aperçoit finalement que lorsque la SEI est associée à une énergie relativement faible et une pression relativement faible, et bien on a des comportements totalement différents en cyclage et qui sont nettement meilleurs pour ce nouvel électrolyte. D'où tout cela indique qu'on peut utiliser cette technique pour choisir ou confectionner les meilleurs électrolytes ou optimiser les meilleurs électrolytes. Alors la question qu'on peut se poser maintenant, c'est, on a ce signal, mais qu'y a-t-il en dehors de ce signal? Quelles sont les réactions qui sont imbriquées dans cette formation de SEI? Alors pour faire cela, on va tout simplement regarder des mesures différentes, où on va s'amuser, si je peux dire, à tracer dQ sur dV en fonction des potentiels, et vous apercevez ici ces différents signaux, ces différents pics, qui correspondent là aussi à certaines réactions. Et ce qui est intéressant, c'est que, rappelez-vous, dans le cas de cet électrolyte, sur la slide précédente, j'avais seulement un pic. Et maintenant, lorsque je prends cette dérivée, eh bien, je peux tout simplement décomposer ça ou déconvoluer en quatre pics. Eh bien, ça veut dire qu'en ce cas, eh bien, la formation de SEI va entraîner des réactions en cascade, et dont la complexité, bien sûr, est indiquée ici. Tout cela, c'est des réactions dans le cas du NP30. Vous avez deux chemins réactionnels qui vont conduire à ces produits de décomposition, qui vont ensuite conduire à la formation de la SEI, qui est un mélange organique ou inorganique, et également dans la même chose que cet électrolyte qu'on appelle MAGIP. Tout cela pour vous dire, c'est qu'on peut, dans ce cas, eh bien, avec ces courbes, avoir une empreinte digitale de la SEI, et ça permet ainsi la sélection rapide, non seulement des électrolytes, mais également des étapes de formation pour un meilleur comportement de l'accumulateur. Alors ces expériences, elles peuvent être généralisées dans le cas des technologies différentes. Ici, vous avez une technologie lithium-ion, et vous apercevez que dans ce cas, eh bien, on retrouve les deux mêmes signatures lors de la formation, avec un pic associé à la chaleur associée aux réactions chimiques et également de la pression. Et on peut également faire les mesures avec des configurations différentes. Et ici, vous avez des cellules qui ne sont plus des cellules 1050, mais des cellules patch cell qui vous permettent, dans ce cas, eh bien, de mesurer également toute cette métrique que sont la pression et la température. Donc voilà, si vous voulez, ce que l'on peut faire avec ces fibres optiques classiques, c'est-à-dire distinguer les aspects thermiques des aspects chimiques. D'où, pour résumer, eh bien, ce que je vais démontrer finalement, c'est qu'avec ces fibres optiques, on va pouvoir faire un tamisage rapide des différents électrolytes et d'optimiser le meilleur électrolyte et surtout la meilleure étape de formation. Dois-je former ma batterie à 55 degrés selon des régimes pulseux et ainsi de suite? Tout cela, on pourra avoir des informations grâce à ces analyses. Et aussi, pas des moindres, eh bien, on peut avoir accès à tous les paramètres thermodynamiques. La dernière fois, je vous ai montré que certains d'entre eux, notamment la chaleur spécifique, mais ces paramètres sont très importants, tant au niveau fondamental, lorsque vous faire regarder les matériaux, calculer les entropies, les enthalpies, ainsi de suite, mais également d'un point de vue industriel, pour connaître les quantités de chaleur engagées et pour le design de nouveaux refroidisseurs pour les batteries. Mais la question qui demeure, et sur laquelle on n'a pas répondu jusque-là, c'est finalement, il y a des réactions. On sait que c'est des réactions chimiques, on a montré que c'est des cascades de réactions, et la question c'est quels sont les composants qui sont imbriqués dans ces réactions, quelles sont les formules des composés, et ainsi de suite. Et bien pour cela, il va falloir aller une étape plus loin et voir comment on va pouvoir modifier nos capteurs pour répondre à ces questions. Alors, jusqu'à maintenant, ce qu'on a utilisé, et bien c'est le réseau de Braque qui est indiqué ici, dans lequel vous avez le cœur, la gaine, et en jaune, je dirais, le packaging pour le protéger. Et vous voyez qu'en ce cas, eh bien, automatiquement, dans le cas d'un réseau de Braque, la lumière est réellement confinée et on n'a pas du tout accès à l'environnement chimique de la fibre. Par contre, maintenant, je peux avoir une situation dans laquelle, supposé que je sorte totalement de la gaine et j'expose directement le cœur de ma fibre eh bien, à l'électrolyte ou à l'environnement. Eh bien, dans ce cas, je vais tout simplement profiter de ce qu'on appelle l'onde évanescente. Et c'est cette onde évanescente qui va se propager dans la fibre et surtout perpendiculaire à la fibre qui va finalement être, je dirais, ma sonde pour connaître les éléments chimiques. Alors pour cela, eh bien, on va tout simplement essayer de regarder ce qui se passe dans cette aiguille. Vous allez voir, il va y avoir différentes méthodes d'approcher cela. Ces différentes méthodes, eh bien, vous allez les comprendre ici. Voilà la première, c'est-à-dire que là, je ne vais pas innover tellement. Je vais prendre une fibre optique avec un réseau de Braque et je vais tout simplement essayer de l'amincir avec du polissage, voire de la gravure, pour diminuer directement sa taille et avoir directement accès au milieu environnement. SRI, c'est tout simplement Surface Environment, ou l'indice de réfraction du liquide qui se trouve en surface. Et à partir de cela, eh bien, je pourrais avoir accès déjà à de la chimie auprès de cette interface. Une autre méthode qui va être pratiquée est tout simplement que l'on va maintenant incliner les réseaux de Braque. voyez, vous avez des réseaux de Braque qui sont perpendiculaires à la fibre, et maintenant, on va incliner ces réseaux de Braque. C'est-à-dire que si j'incline mon réseau de Braque, je vais tout simplement maintenant envoyer de la lumière dans ma gaine, et cette lumière, elle va se propager dans cette gaine, et elle va interagir maintenant avec le milieu environnant. Et là, je vais commencer également à sonder ce qui se passe en surface, et notamment, je vais être très sensible à l'indice de réfraction des milieux environnants. Et on verra quelles sont les longueurs d'onde des pics résonants, des réflexions résonantes. Et enfin, le dernier cas qu'on va pouvoir voir, c'est le cas où on va utiliser maintenant des réseaux de Bragg, mais dans lequel on va changer la distance entre ces plans. On va changer la distance par un facteur 10, 15, et dans ce cas, on va également pouvoir accéder aux gaines de mode, c'est-à-dire les différentes longueurs d'onde qui vont se propager dans la gaine. Et on va revenir sur certaines de ces formules. Tout ça, c'est la façon, je dirais, générale qu'on va voir par la suite pour avoir accès à cette chimie autour de ma fibre, c'est-à-dire autour de ma batterie, autour de mon électrode, autour de mon électrolyte. Alors ensuite, eh bien, il va y avoir des méthodes qui sont basées sur ces réseaux dans lesquels on va ensuite fonctionnaliser cette fibre optique. Et là, vous avez par exemple une fibre optique avec un réseau de Braque sur lequel je vais déposer une biocouche comprenant, dans ce cas, un biorécepteur. Et ensuite, eh bien, je vais pouvoir, dans ce cas, analyser l'interaction entre une solution biologique contenant antigène et ce biorécepteur, et molécule par molécule, je vais pouvoir, en suivant cette variation de longueur d'onde, savoir l'interaction entre la cible et le récepteur. Et je vous donnerai un exemple, à la fin de ce cours, comment cela se fait avec des fibres un peu particulières. Une autre façon de faire ça est aussi de voir le dépôt, dans ce cas, de polymères, qui vont être des polymères gonflants à la surface de la fibre, et de détecter des alcools ou d'autres solvants qui vont entraîner un gonflement de la sphère, un gonflement du dépôt, et par conséquent, une modification de l'indice de réfraction. Et vous voyez ici, on peut tout simplement, dans ce cas, doser des solutions au alcool par de telles mesures. Donc voilà, si vous voulez, ce que l'on peut faire. Alors ensuite, eh bien, on va revenir à ces différentes étapes. Alors, on va regarder tout d'abord ces fameuses ondes évanescentes. Vous avez ici une fibre optique dans laquelle on a totalement sorti la gaine. Eh bien, dans ce cas, on peut calculer la transmittance de cette onde, de ce signal, qui va être donnée par la formule indiquée ici, dans laquelle vous avez le coefficient d'absorption de l'espèce chimique que vous allez voir analyser qui va rentrer en jeu. Vous avez la concentration de l'espèce chimique, vous avez la longueur du capteur, et également vous avez le rapport de puissance de l'onde évanescente sur l'onde de propagation totale. Et ces capteurs, on va pouvoir les utiliser pour doser certains gaz et autres. Et je vous donne ici un exemple où vous avez là aussi une fibre optique. Et notez, il s'agit d'une fibre optique dans laquelle je n'ai même pas un réseau de Bragg. C'est une simple fibre optique. Et là, je vais tout simplement jouer entre cette onde évanescente et le milieu extérieur. Et pour augmenter ma sensibilité, qu'est-ce que je vais faire systématiquement? Je vais essayer d'émincer, d'effiler cette fibre optique avec en ayant un diamètre le plus petit possible et une longueur d'onde la plus grande possible pour avoir plus d'ondes évanescentes pour l'analyse. Et voyez ici, par exemple, les résultats que cela donne lorsque je prends un mélange de gaz, dans le cas de l'azote et CH4, et voyez la réponse en puissance selon que j'ai 100%, 80%, 60%, etc. Ça veut dire que je peux analyser les quantités de gaz dans un mélange par cette onde évanescente. Alors ces ondes évanescentes que je vais montrer, elles vont dépendre fortement du diamètre et de la longueur. Et vous voyez effectivement que pour la sensibilité, eh bien, plus le diamètre va être diminué, et plus la longueur va être augmentée, vous aurez une plus grande sensibilité. Et cette plus grande sensibilité, on peut la voir très bien ici. Alors bien sûr, diminuer le diamètre de la fibre, bon, tout cela c'est bien, mais elle va devenir de plus en plus fragile, et ça présenter des problèmes. Alors c'est ces genres de fibres qui ont été utilisées dans les batteries, et là aussi il y a quelques exemples, ils ne sont pas nombreux, je vais en montrer un ou deux. Le premier est tout simplement l'étude d'une batterie lithium-FPO4 carbone. Vous avez les différentes électrodes, le séparateur et la fibre optique, comme indiqué ici. Dans ce cas, c'est une cellule tout simplement switchlock, dans laquelle un trou a été percé pour tout simplement enfiler la fibre optique. Et vous voyez que la fibre optique est placée ainsi. C'est-à-dire qu'on a maintenant, on va aller sonder tout ce qui se passe au-dessus, mais surtout au-dessous, dans le graphite. Et vous savez que lorsqu'on l'intercalation du lithium dans le graphite, eh bien, le lithium est un matériau noir ou grisâtre. Et lorsqu'on va mettre du lithium, il y a différents étages, différents steps, qui sont l'étage 1, l'étage 2 et l'étage 3. C'est-à-dire qu'en ce cas, on va changer les propriétés métal-non-métal. On va passer d'un gris noirâtre à un gris rougeâtre lorsque le matériau va être complètement chargé. Eh bien, on va tout simplement, dans ce cas, faire la mesure et voir ce qui se passe lorsqu'on va, dans ce cas, décharger cette batterie, c'est-à-dire charger mon électrode de graphite. Et dans ce cas, eh bien, je trace la variation de transmittance, longueur d'onde et capacité, et vous pouvez voir que lorsque la capacité, c'est-à-dire que lorsque je vais mettre du lithium dans mon graphite, eh bien, vous pouvez voir que la transmittance augmente, et celle-ci va augmenter d'autant plus que je suis à des longueurs d'onde aux alentours de 800 nanomètres ou 900 nanomètres qui sont directement près de la partie infrarouge et qui correspondent finalement à cet aspect que je vois lorsque j'ai une électrode complètement chargée. Donc voilà, si vous voulez, ce qu'on peut faire grâce à ces ondes évanescentes. Ensuite, les mêmes chercheurs ont tenté de comprendre plus directement ce qui se passe dans cette électrode de graphite en mettant la fibre optique soit à la surface, dans le cas d'une switchlock classique, dans le cas d'une cellule poche, et finalement à l'intérieur. Et là aussi, ils ont mesuré, en fonction de la charge et la décharge, quelle va être la variation de la transmittance. Et qu'est-ce qu'ils observent? Eh bien, ils observent finalement que le meilleur résultat s'obtient dans le cadre où la fibre est parfaitement insérée dans l'électrode de graphite, ce qui est la courbe en bleu, alors que dans les deux autres cas, eh bien, je dirais le rapport est nettement moins bon. Donc, tout cela veut dire que grâce à cette méthode d'onde évanescente, eh bien, on peut tout simplement suivre l'état de charge de votre accumulateur. Et bien sûr, vous avez le phénomène inverse en décharge, comme indiqué ici. Donc voilà, si vous voulez, un exemple d'utilisation d'ondes évanescentes. Un autre exemple d'utilisation d'ondes évanescentes, que vous savez déjà très bien, ce n'est rien d'autre que celle qui est reliée à la spectroscopie infrarouge. La spectroscopie infrarouge travaille sur la base d'ondes évanescentes. Vous avez ici la fibre optique avec un guidon parfait. Et maintenant, eh bien, si je prends une fibre optique avec comme guide d'onde, vous voyez qu'en ce cas, eh bien, je vais avoir cette onde évanescente qui va tout simplement se propager perpendiculaire à la fibre optique. Et si j'ai un échantillon à l'extérieur, eh bien, je vais pouvoir directement sonder dans ce cas quel va être le comportement ou la réponse infrarouge de ce liquide ou de cet échantillon. Et bien sûr, cette onde évanescente, elle ne se propage pas indéfiniment. Elle a une degré de pénétration qui est indiqué ici, qui est fonction de la longueur d'onde, bien sûr, de N1 et N2, qui sont les indices de réfraction, et de l'angle d'incidence, comme indiqué sur ce schéma. D'où, par conséquent, on pourra utiliser, dans ce cas, eh bien, de nouveau ces capteurs infrarouges pour aller tester les électrolytes. Mais cependant, il y a une condition, c'est que dans ce cas, eh bien, si on veut avoir des informations au niveau infrarouge, il va falloir balayer une longueur d'onde qui va de 3 à 15 ou 20 microns. Et ça, vous ne pouvez pas le faire avec des fibres optiques classiques, c'est-à-dire des fibres de silice. C'est la raison pour laquelle eh bien, il va falloir passer sur des fibres de chalcogénure, de tellurure et ainsi de suite, dans lequel, dans ce cas, on pourra avoir la bonne fibre pour couvrir la partie infrarouge que l'on souhaite. On peut, dans ce cas, fabriquer des fibres qui sont relativement fines, de 100 à 500 microns, qui ont également une très faible attenuation, autant que les fibres associées au silice, Par contre, elles sont beaucoup plus fragiles et elles sont beaucoup plus complexes à manipuler. Et une expérience se fait de la façon suivante. Vous avez un spectromètre classique, et dans ce cas, il suffit directement que vous connectez, vous avez les connectiques pour relier votre fibre optique. Et ça, je dirais, c'est des méthodes qui ont été développées et qui sont étudiées en médecine, notamment pour le diagnostic médical du NASH, qui est une maladie du foie. Une compagnie à Rennes a développé ce capteur, où dans ce cas, vous n'avez rien d'autre qu'une fibre optique sur laquelle vous allez déposer tout simplement un tissu biologique. Donc voilà, si vous voulez, comment ces expériences fonctionnent. Et là aussi, les lois, eh bien, elles sont réglées par ce que vous connaissez très bien, la loi de Bell-Lambert, dans laquelle vous avez la sensibilité qui augmente avec la longueur de la fibre et la concentration de l'échantillon. Et comme avant, vous voyez, là aussi, pour s'assurer de la sensibilité d'une telle expérience, eh bien, il faut qu'on amincisse au maximum le diamètre de la fibre, et car la sensibilité va dépendre du diamètre et également du nombre de réflexions que du signal à l'intérieur de cette zone amoindrie. Et on peut ainsi obtenir les capteurs indiqués ici, dans lesquels il suffit, dans ce cas, soit on va faire de l'émincage ou du polissage, soit on va faire un traitement thermique et on va étirer la fibre, comme indiqué ici. Donc voilà, si vous voulez, ce que l'on peut faire par les zones évanescentes sur une fibre, je dirais, nue, une fibre optique classique. Et maintenant, l'avantage sur une évanescente, c'est que vous avez accès à la chimie, mais vous n'avez pas accès aux paramètres que sont la température ou la contrainte, et ainsi de suite. D'où l'étape suivante, que je vais aborder maintenant, eh bien, comment on va pouvoir dévier des réseaux de Bragg et avoir accès à ces zones évanescentes. Eh bien, la méthode elle est indiquée ici, c'est-à-dire qu'on va passer à des capteurs qu'on appelle des capteurs inclinés, tinted framework grating en anglais, dans lequel, dans ce cas, vous voyez, on va tout simplement incliner les plans, c'est-à-dire qu'on va envoyer de la lumière dans mon mode de gain, ce qui va créer directement différents modes de gain qui vont maintenant être sondés la surface ou l'interface entre ma gaine et le milieu extérieur. Et bien, tout cela va donner des spectres de résonance, comme indiqué ici. Je vous rappelle ici, dans le cas du réseau de Bragg, qui est parfait, vous avez le couplage contre-progratif du guide, et tout cela, c'est simple, des modes de gain qui sont relativement faibles, alors que dans le cas eh bien, du FBG qui va être maintenant incliné, vous allez générer un nombre considérable eh bien, de modes de gain, et dans ce cas, eh bien, vous allez obtenir finalement dans votre réponse spectrale un spectre, c'est-à-dire un peigne, avec qui vont représenter les différents modes de couplage entre le cœur et ces modes de gain que vous allez générer. Et vous voyez qu'en ce cas, les longueurs de résonance sont définies en fonction de l'indice de réfraction du cœur plus de l'indice de réfraction associé à chaque mode, et tout cela va dépendre de l'angle d'inclinaison que vous avez indiqué ici. Et à partir de cela, eh bien, vous avez l'avantage de ce capteur, c'est que non seulement je vais avoir, dans ce cas, eh bien, le couplage contre-propagatif guidé par le réseau de Bragg, c'est-à-dire que je pourrais me servir de ce pic pour, dans ce cas maintenant, évaluer la température et comment la température va changer lorsque je ferai mes expériences, mais également, je peux dans ce cas avoir accès au milieu extérieur et à des indices de réfraction relativement variés. Et bien sûr, si j'ai des changements de composition chimique, eh bien, j'aurai tout simplement, dans ce cas, des changements d'indice de réfraction. Alors, bien sûr, je vais parler de ces réseaux de Bragg inclinés. Il va y avoir une importance à comprendre la raison de cette inclinaison. Et ici, je vous représente ce qui se passe lorsque je vais changer ce fameux θ, qui est l'angle d'inclinaison. Et vous voyez que lorsque je change ce θ, eh bien, je vais déplacer l'enveloppe du spectre de résonance vers, tout simplement, de plus petites longueurs d'onde, comme indiqué ici. Ensuite, eh bien, on peut, la plupart du temps, on va utiliser θ aux alentours de 10 degrés, car θ aux alentours de 10 degrés, vous allez avoir accès au milieu, il y a des indices de réfraction aux alentours de 1,33-1,34, qui sont pas loin du milieu de l'eau, ou les milieux biologiques qui sont dans ces domaines. Et vous allez pouvoir avoir accès à ces différentes étudier ces différents milieux. Ensuite, eh bien voilà ce qui se passe maintenant si je fixe mon plan d'inclinaison à 6 degrés. Voyez, ici, maintenant, je vais changer. C'est une solution de sucre dans laquelle je vais changer la concentration, c'est-à-dire l'indice de réfraction. Et vous voyez tout simplement comment l'enveloppe de ces pics de résonance va changer et va se déplacer soit à basse longueur d'onde ou à haute longueur d'onde. Alors la question que vous pouvez vous poser, c'est que lorsque vous voyez un spectre résonance, ça fait un peigne comme ça, comment vous allez l'exploiter et comment vous allez retirer votre information? Et là, je dirais, c'est là où c'est un peu plus complexe et vous allez voir, il y a plusieurs méthodes. La première méthode, qui est relativement simple, c'est que dans ce cas, je vais tout simplement prendre l'air de cette enveloppe et essayer de tracer en fonction de la concentration, comme indiqué ici. Et vous apercevez, eh bien, effectivement, on obtient une courbe. Cependant, eh bien, vous voyez que dans ce cas-là, de faible concentration, jusqu'à 25 ou 30% de ma solution, eh bien, j'ai peu de changements. Il sera difficile de déterminer quelle sera la concentration avec précision. Alors ensuite, eh bien, il y a une autre méthode qui va consister à regarder ces différents spectres. Et vous voyez qu'en ces différents spectres, vous avez des changements soudains d'intensité. C'est ce qu'on appelle dans ce cas eh bien, les modes près d'une coupure. Et ces modes près d'une coupure sont ceux qui vont vraiment changer rapidement, ou changer fortement par rapport aux autres. Pourquoi ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que lorsqu'un mode va être près d'une coupure, ça veut dire que son index va devenir égal à celui du milieu extérieur. Donc par conséquent, lorsque cela va arriver, il va progresser de plus en plus, l'onde vanescente va progresser de plus en plus dans le milieu extérieur jusqu'au moment où elle va totalement s'estomper. Et c'est pour ça qu'on appelle ces modes de coupure. Et on peut dans ce cas, eh bien, regarder quel va être le mode à utiliser situé par exemple à 17 nanomètres du pic de Bragg, ainsi de suite. Et on obtient ce genre de courbe pour certains modes. Et ce que je voudrais vous montrer, et passer peut-être plus de temps, c'est sur ce schéma ici qui est plus représentatif. Ce qu'on regarde ici, vous voyez, ce n'est rien d'autre. Vous avez le réseau de Bragg et je prends des modes qui sont directement à 8 nanomètres, qui sont égales à 14 nanomètres, je pense, ainsi de suite. Et je trace l'indice de réfraction et le déplacement. Et vous apercevez qu'en ce cas, j'ai plusieurs courbes. Et regardez ici, c'est tout simplement les modes de coupure qui arrivent. Mais tout ça pour vous dire eh bien, que le choix du mode va être relativement important en fonction de l'indice de réfraction du milieu environnant. C'est-à-dire qu'il faudra que, lorsque vous faites ces manips, vous arrivez à identifier quels sont les modes les plus sensibles au milieu environnant, et cela va changer. Alors cela est une difficulté, mais d'un côté, c'est une chance, parce que ça va vous permettre tout simplement de scanner des milieux totalement différents en indice de réfraction. D'où ce qu'on va voir maintenant, eh bien, je vais voir juste quelques exemples, un exemple, avant de l'appliquer au domaine des batteries. Alors cet exemple, eh bien, c'est tout simplement une solution de sucre dans laquelle on va aller de 10% à 50%. Et vous avez ici tous les spectres qui ont été, je dirais, collectés. Et bien là, on va tout simplement, vous voyez, on va regarder là, le signal peak-to-peak de différents modes. Et on peut prendre des modes qui sont à 1520, 1540 et 1560. Et je vais être obligé chaque fois de calibrer mon système. Et voyez ce que j'obtiens. Vous obtenez, ça veut dire que l'indice de réfraction, si je prends le mode qui est à, les modes qui sont à 1520, 1540, 1560. Et là, vous voyez effectivement que si je veux connaître ou si je veux travailler, par exemple, avec un milieu extérieur dont mon indice de réfraction sera autour de 1,35, eh bien, je vais prendre tout simplement cette partie orange de la courbe, car c'est là que j'aurai plus de sensibilité. De la même façon, si je veux maintenant aller travailler aux alentours de 1,38, eh bien, je vais prendre directement le mode qui va être aux alentours de 1560. Donc, si vous voulez, c'est pour montrer comment on va interpréter ou on interprète et on utilise ces différentes données. Eh bien, sur ces bases, on va essayer de l'appliquer à un accumulateur qui sont toujours les batteries sodium-ion. Donc voilà l'accumulateur sodium-ion, dont vous connaissez maintenant la courbe de charge, tension en fonction du temps, et on va collecter, et ici on a pris quelques exemples, 4 ou 5 points, mais bien sûr on va collecter des centaines de points pour montrer ce qu'on obtient. Et on observe, comme je vous l'ai mentionné auparavant, vous avez tout simplement le spectre classique avec tous ces modes associés à la gaine, plus le mode de cœur ici. Et ensuite, on va tout simplement définir un domaine et on va tout simplement comparer la distance pic to pic des différents modes. On fait cela et on va tout simplement dans ce cas, eh bien, à partir d'une courbe d'étalonnage, déterminer quelle va être la valeur du RI, c'est-à-dire l'indice de réfraction de mon environnement, c'est-à-dire dans ce cas de mon électrolyte qui est un mélange de EC, DMC plus sodium PF6. Ayant fait cela, eh bien, on peut tout simplement ensuite remonter à la courbe cyclage et tracer maintenant quelle va être la variation de l'indice de réfraction lorsque je vais tout simplement charger mon accumulateur et ainsi de suite. Ça, on peut le faire durant le premier cycle, mais on peut également le faire durant que la batterie est en train de cycler. Et utilisant ces réseaux de Bragg, on peut également utiliser le pic de Bragg pour avoir des informations sur la température, mais également sur l'indice de réfraction. Et vous voyez qu'en ce cas, on a à la fois les effets thermiques ainsi que les effets sur l'indice de réfraction qui représentent des variations d'électrolytes et de composition d'électrolytes. Alors on peut faire ça sur un peu du temps, on peut faire ça sur un grand nombre de cycles, et vous avez ici par exemple ces résultats sur 40 ou 50 cycles, avec en haut la capacité en fonction du cyclage, et en bas la variation de l'indice de réfraction, pour ici, je dirais, deux types d'électrolytes, celui que je vous ai mentionné au départ dans ce cours, NPF6, NAPF6-DMC, et ici le NP30. Notez ici la reproductibilité des expériences, puisque vous avez deux cellules dans chacun des cas, et voilà les résultats que l'on obtient. Alors bien sûr, la question que l'on se passe, on s'aperçoit que l'indice de réfraction, dans le cas de l'électrolyte en orange NP30, eh bien, il augmente fortement au début et ensuite il revient constant, alors que dans le cas du DMC pur, on a une forte augmentation et ensuite même une décroissance vers la fin. Donc la question, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe. Et notez ici d'ailleurs que si maintenant je regarde entre ma première charge et ma première décharge, je perds quand même 50 mAh par gramme pour l'électrolyte DMC par rapport à seulement 20 dans le cas de l'électrolyte NP30. D'où la question, voilà les données, qu'est-ce que je peux en sortir concrètement au niveau de la chimie? Mais concrètement au niveau de la chimie, je peux tracer la perte de capacité en fonction du nombre de cycles et avec la variation de l'indice de réfraction, et je m'aperçois, comme indiqué ici, que j'ai une augmentation dans le cas de mon électrolyte qui est, je dirais, le pire en cyclage, c'est-à-dire avec DMC, qui est aux alentours de 0,051 unité d'indice de réfraction dans ce cas. D'où la question, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Eh bien, on peut tout simplement faire de simples calculs et de reprendre les réactions que j'ai mentionnées au début de ce cours et voir quels seraient les indices de réfraction ou les changements d'indice de réfraction associés à des réactions de décomposition d'électrolytes qui, à partir d'un carbonate diméthyle, vous donneraient de l'oxalate diméthyle ou autre. Et on obtient dans ce cas un delta RI de 0,0107. Rappelez-vous, il y a également des réactions parallèles où dans ce cas, je peux avoir une décomposition et former des sodium alkylcarbonate, ici des sodium méthylcarbonate, et calculer le delta RI associé. Et vous apercevez dans ce cas que j'ai ces deux valeurs, et ces deux valeurs, si je prends la moyenne, eh bien je retrouve à peu près ce que j'obtiens expérimentalement. Ça veut dire qu'en ce cas, j'ai un mécanisme de décomposition qui va engendrer ces deux types de réactions, c'est-à-dire décomposition du carbonate diméthyle en oxalate diméthyle et en sodium méthylcarbonate. Donc voilà, si vous voulez, ce qu'on peut obtenir à partir de ces mesures. Alors bien sûr, la question que l'on peut se poser, c'est est-ce qu'on en a assez de sensibilité pour avoir des résultats concrets et réellement exploitables? Bien, c'est ce que des chercheurs ont tenté de répondre et ils ont essayé d'améliorer les systèmes. Vous allez voir maintenant quelques améliorations relativement simples, je dirais, là-dessus. La première amélioration est indiquée ici, où, dans ce cas, eh bien, des chercheurs ont décalé, ont soudé deux fibres optiques, mais ont décalé la fibre optique concernant le TFBG par rapport, tout simplement, à la fibre optique centrale. On peut faire ça par fusion, comme indiqué ici, et quel est le but de faire cela? Le but de faire cela est relativement simple, parce que dans ce cas, je vous ai dit que les modes de gaine se propagent dans la gaine, ils sont amortis rapidement. D'où le fait de décaler, c'est-à-dire c'est de récupérer ces modes de gaine et de les réinjecter dans la fibre optique en amont. Et dans ce cas, eh bien, on peut nettement mieux transporter le signal et on a une meilleure sensibilité. Et en effet, voilà les résultats obtenus dans les trois cas, c'est-à-dire dans le cas où il n'y a pas de décalage en vert, et dans le cas où on a tout simplement un décalage en rouge. Et vous voyez qu'on a un signal, une réponse beaucoup plus importante. Et cette réponse, eh bien, elle peut également se traduire lorsqu'on va prendre des spectres de résonance sur différents indices de réfraction, comme vous pouvez le voir sur cette figure. Ça, je dirais, c'est une amélioration. Et il y a beaucoup d'autres améliorations qui ont également été effectuées. Un peu dans le même sens, vous voyez ici, en ce cas, ce qu'ont fait les chercheurs, c'est qu'ils ont mis deux types de réseaux. Un réseau de Bragg, indiqué ici, avec un réseau de Bragg et un autre réseau tilted, où, dans ce cas, ils vont pouvoir avoir accès, tout simplement, à l'indice de réfraction. Et dans ce cas, eh bien, ils comparent les mesures, toujours pareil, en utilisant une concentration de sucre déduite par ce capteur optique par rapport au réfractomètre d'AB. Vous voyez qu'en ce cas, il y a une bonne correspondance. Ils ont également fait cela avec une batterie, une patch cell, dans laquelle ils ont mis une fibre optique et, dans ce cas, ils se sont juste servis du capteur pour remplir la cellule en électrolyte ECDEC lithium-PF6 et regarder comment l'indice de réfraction allait changer. C'est-à-dire qu'ils ont mis des quantités de 0,1, 0,2 m et obtenu finalement cette droite, une fois de plus, en accord avec les mesures expérimentales totalement séparées. Donc c'est pour montrer tout simplement la validité de ces approches, mais qui sont quand même des approches complexes et fabriquer de telles fibres, je dirais, n'est quand même pas évident. Donc voilà, si vous voulez, ce que je voulais vous dire sur la technique ou l'utilisation des réseaux de Bragg tiltés pour réellement avoir accès à des informations supplémentaires au niveau de la chimie des batteries. Le troisième et dernier exemple pour avoir accès à ces ondes évanescentes est une dérivée de la fibre optique du réseau de Bragg, c'est ce que j'appellerais les réseaux de Bragg à long pas. Vous avez ici le réseau de Bragg classique, dans lequel eh bien, le pas entre les deux plans indiqué, qui est inférieur à un micron, alors qu'il va pouvoir être, dans ce cas, nettement supérieur, allant de 100 à 500 microns. Ce qui fait qu'en ce cas, eh bien, on va travailler par réflexion, alors qu'en ce cas, eh bien, on va avoir un réseau de Bragg qui va, dans ce cas, être copropagatif, et on va travailler en transmission. Et la différence essentielle, c'est qu'en ce cas, bien sûr, on coupe tout simplement le réseau de cœur avec le réseau de gain, et on va avoir plusieurs pics déduits par ces réseaux longs pas. La différence essentielle, regardez ici, l'étroitesse du pic, dans le cas d'un réseau de Bragg FBG, qui est de 120 picomètres, comparé à 17 nanomètres, dans le cas d'un réseau de Bragg longs pas. Alors ces réseaux de Bragg, eh bien, on va les faire d'une façon identique au réseau de Bragg classique, soit par la technique UV en, dans ce cas, eh bien, dopant ou le matériau sous hydrogène pour avoir une meilleure mobilité du germanium, ainsi de suite, ou on va les faire par laser, sous un laser CO2, dans lequel, dans ce cas, eh bien, tout simplement, je vais chauffer et je vais étirer pour obtenir ce type de réseau de Bragg long pas, comme indiqué ici. Et ça, on peut voir, tout simplement, la mesure de la transmittance au fur et à mesure que ces mesures sont effectuées pour arriver à déterminer les meilleures conditions pour avoir des capteurs avec les distances et les diamètres bien déterminés. D'où, pourquoi faire ça? Eh bien, là aussi, on va pouvoir déterminer avec précision, je dirais, les indices de réfraction, mais la difficulté de ces capteurs longs pas, c'est qu'ils vont être extrêmement sensibles, à la température et également aux contraintes. D'où il va falloir, une fois de plus, découpler ces différents paramètres. Et là, c'est une mesure classique. Vous voyez que dans ce cas, eh bien, clairement, on a le couplage codirectionnel avec le mode fondamental, le réseau de cœur. Et là, il suffit tout simplement de mettre la fibre optique avec votre réseau de Bragg, d'envoyer un liquide, et on peut tout simplement mesurer les variations d'indice de réfraction associées à les différentes concentrations en solution. Donc ça, je dis, c'est une démonstration. Donc à quoi ça sert? Eh bien, de tels réseaux de Bragg ont été utilisés fortement dans les milieux sous-marins, pour déterminer la salinité de l'eau. Et dans ce cas, ce qui est intéressant, vous avez un capteur qui est assez spécial, puisqu'il va coupler un réseau de braque classique avec un réseau LOMPA. Pourquoi vous avez ce couplage? Car on veut seulement différencier la température et la concentration. Puisque vous savez très bien que la concentration ou du sel dans l'eau marine va dépendre de la température. D'où vous avez les deux capteurs qui sont couplés, vous avez le réseau de braque en rouge, okay, et il va vous donner, regardez, le pic, donc j'ai mentionné, très étroit. Voilà les cinq capteurs, voilà le pic. Okay, et en bleu, bien, c'est lui qui va tout simplement vous donner les informations sur l'indice de réfraction et la température. Et ensuite, il va falloir que vous découpliez. Et grâce à ça, eh bien, on peut obtenir la courbe indiquée ici, c'est-à-dire que dans ce cas, eh bien, on a un changement de longueur d'onde de 4,5 pm picomètre par gramme par litre de NaCl. D'où, ayant cela, eh bien, on va pouvoir maintenant développer ce type de capteur, et c'est ce qui se fait de façon courante pour mesurer des mesures de salinité. Et là, vous voyez très bien le capteur. Le couplage, si vous parlez, d'un réseau de braque classique avec un réseau de braque LOMPA. Réseau de braque classique, eh bien, il va être isolé, car son but, c'est directement de déterminer la température, alors que le réseau de braque LOMPA, eh bien, il se trouve dans ce plastique dans lequel vous allez avoir plusieurs trous pour que l'eau directement puisse pénétrer. Et vous apercevez, dans ce cas, les sensibilités, qui sont de 35 pm par degré C, dans ce cas de réseau de braque, et dans ce cas, eh bien, on peut avoir des concentrations de 1 gramme par litre avec 6 pm. Vous voyez que l'importance, dans ce cas, de contrôler la température, regardez, à 15 grammes, 25 grammes, en fonction de la température, vous avez une variation de delta qui est totalement différente. D'où, de telles mesures n'auraient aucun sens si vous ne découpez pas ou s'il n'y avait pas une référence en température. Et rappelez-vous la différence avec les réseaux tiltés. Avec les réseaux tiltés, j'avais tout simplement ma réfraction de Bragg qui me permettait de suivre ma température. Ici, ce n'est pas possible, il me faut tout simplement deux réseaux. Alors, ces réseaux de Bragg, on peut l'utiliser pour beaucoup d'autres choses, notamment pour étudier le gonflement des hydrogels. Hydrogels qui sont des structures tout simplement polymères réticulées gonflées à l'eau et qui vont, selon les quantités d'eau, pouvoir soit gonfler davantage, soit se contracter. Et la même chose, je dirais, avec des solutions biologiques. Et dans ce cas, eh bien, on va utiliser une fois de plus une fibre optique à réseau de Bragg, mais qui va être encore modifié. Alors celle-là est assez originale, c'est une fibre optique en polymère, et si vous regardez bien cette fibre optique, elle n'a qu'une matière, c'est-à-dire du PMA. Et vous pouvez vous demander, mais comment dans ce cas on va guider la lumière, on va avoir un guide d'onde. Et l'astuce, c'est que dans ce cas, eh bien, vous voyez, vous avez un anneau de microcapillaires qui vont tout le long de la fibre, et ces microcapillaires, eh bien, sont remplis d'air. D'où automatiquement, vous allez avoir un indice de réfraction qui va être beaucoup plus moindre que le cœur. Et c'est par cette astuce que vous allez simplement guider l'onde. Et cela est bien indiqué ici, vous voyez très bien, dans ce cas, le réseau central en bleu et l'anneau de capillaires autour. Et bien avec ça, on va pouvoir suivre finalement la réponse de cet hydrogène à des variations de pH, variations de force ionique, et on peut montrer que si maintenant le pH augmente, eh bien vous avez dans ce cas une augmentation de la longueur d'onde, et ça veut dire que dans ce cas, vous avez un gonflement. Par contre, si maintenant votre pH diminue, vous avez dans ce cas eh bien, une contraction. Et on peut utiliser cela comme un capteur, et d'ailleurs vous avez la réponse indiquée ici, en fonction de l'immersion et retrait d'une solution à pH différent. Donc voilà comment on peut utiliser ces réseaux de Bragg. Et une autre application d'actualité aussi vis-à-vis de l'énergie concerne l'hydrogène. Et comment détecter ou comment faire un capteur à hydrogène? Et bien là aussi, il y a deux approches qui ont été prises. Quand je dis deux approches, j'exagère puisqu'il y en a peut-être une centaine. Je vais en nommer deux seulement. Une que je trouve intéressante, où dans ce cas, les chercheurs ont tout simplement comparé des réseaux de Bragg classiques ou des réseaux de Bragg à LOMPA, et là aussi, ils vont utiliser des ondes évanescentes, mais ils vont, dans ce cas, mettre du palladium, excusez-moi, une couche de palladium à la surface. Et vous savez tous que l'hydrogène va réagir avec le palladium pour former un alliage palladium Hx. Et cela, eh bien, ça va créer des contraintes au niveau des matériaux, une tension au niveau des matériaux, et c'est la raison pour laquelle vous allez obtenir des variations de signal dans votre spectre de résonance. Et dans ce cas, vous voyez, j'obtiens avec un réseau de Bragg aux alentours de 14 picomètres par rapport à 7 nanomètres avec des réseaux de Bragg long-pas. Et cela vous montre réellement l'importance d'avoir ces réseaux de Bragg long-pas pour la sensibilité. Vous avez une sensibilité qui est aux alentours de 500 fois supérieure. Une autre façon de faire ces mesures, eh bien, c'est d'utiliser des matériaux différents. Et dans ce cas, c'est tout simplement d'utiliser des mélanges ou des composites platine, oxyde de tungstène. Et vous avez ici une fibre là où, qui est entourée, si je peux dire, de ce composite. Et dans ce cas, c'est tout simplement basé sur la réaction WO3 plus H2 vous donne WO3 moins X plus H2. Il s'agit là d'une réaction exothermique. Et ce qu'on va mesurer dans ce cas, ce n'est plus la tension, mais c'est tout simplement la chaleur, c'est-à-dire le delta T associé à cette réaction. Et à partir de ça, on pourra remonter à la quantité d'hydrogène dans l'air environnant. Et là aussi, vous avez la démonstration de ce capteur avec, dans ce cas, des différents mélanges de gaz, etc. Donc voilà, si vous voulez, à quoi on peut s'amuser avec ces différents capteurs, où on peut augmenter la sensibilité en passant des réseaux de Bragg classiques à des réseaux de Bragg long-pas. Alors maintenant, la question qui se pose, est-ce qu'on peut aller encore plus loin et est-ce qu'on peut augmenter directement cette sensibilité? Eh bien oui, on peut encore aller plus loin et on va maintenant jouer sur la fibre. Et on va utiliser ce que j'appelle des fibres microstructurées ou des fibres photoniques. Alors microstructurées, je vous l'avais mentionné auparavant, au début du cours, lorsqu'on avait dans ce cas regardé quel va être le fait d'introduire une quantité d'air, une cavité à l'intérieur de la fibre pour avoir une meilleure réponse en pression, eh bien là, on va tout simplement utiliser des fibres photoniques. Et ces fibres photoniques, ce sont des fibres optiques qui contiennent un noyau creux central entouré d'une microstructure en verre constituée, comme vous pouvez voir ici, de nombreux capillaires qui vont tout simplement se propager le long de la fibre. Et ça, eh bien, ça va automatiquement être très important au niveau de la sensibilité, que ce soit pour l'infrarouge, l'UV, le Raman, et ainsi de suite. Pourquoi? Eh bien, c'est tout simplement lié à tout ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant. Si maintenant, je vais utiliser ces cavités avec la microfluidique pour faire passer mes liquides, eh bien, je vais avoir tout simplement avoir une altération au niveau de mes zones évanescentes. D'où, dans ce cas, je vais pouvoir tout simplement pomper des solutions à l'intérieur de ces structures et même utiliser certains de ces canaux comme guide optique et avoir une sensibilité énorve. Et de plus, je veux dire, c'est relativement plus simple à fabriquer qu'à amincir les fibres et ainsi de suite. D'où c'est la raison pour laquelle ces cristaux photoniques ont apporté également des avancées considérables au niveau de la chimie analytique, peu dans le domaine des batteries, car ça n'a pas encore entré dans le domaine des batteries, mais ça, je dirais, c'est monnaie courante dans le domaine de la biologie. Et je vais vous donner un exemple indiqué ici. Vous avez ici une manip classique dans laquelle vous avez une fibre photonique. Vous voyez ici le cœur, et vous avez, dans ce cas, vous voyez, les cavités. Eh bien, par microfluidique, on va tout simplement envoyer la solution biologique à l'intérieur et voir ce qui se passe. Et l'avantage, c'est qu'avant d'envoyer ma solution biologique, je peux fonctionnaliser les parois et, comme je vous l'ai mentionné auparavant, mettre des biorécepteurs et regarder ensuite ce que je peux avoir capté au niveau analyte et son. Donc voilà, si vous voulez, des manips qui se font pour avoir de la reconnaissance biologique et avoir des informations sur la cinétique des différentes réactions. Eh bien, ces genres de manips, en utilisant les fibres photoniques, sont fortement utilisés. Dans le cas des batteries, eh bien, je crois que je n'ai pu trouver qu'un exemple et, récent. Il n'y a même pas un papier complet, c'est juste un abstract. C'est un abstract d'un groupe anglais qui a tout simplement, pour la première fois, démontré l'utilisation de ces fibres photoniques dans le cas des batteries, où, dans ce cas, vous avez une cellule lithium-ion classique. Et ce qu'ils ont utilisé, c'est une fibre avec un cœur creux, comme indiqué ici, et dans lequel maintenant, eh bien, l'électrolyte va être injecté. D'où, comment cela fonctionne ? Eh bien, vous avez la cellule, la poche-celle. Vous avez ici, tout simplement, la fibre creuse. Vous avez une seringue qui va tout simplement servir de pompage pour retirer ces électrolytes au fur et à mesure que vous allez faire votre manip. Et vous avez votre système analytique ici. Eh bien, grâce à ça, on peut, oui, les chercheurs ont montré qu'ils pouvaient, ils n'ont pas encore montré grand-chose, ils ont seulement montré qu'ils pouvaient avoir accès au spectre Raman des électrolytes, comme dans ce cas, des additifs de EC ou alors des additifs comme VC. Donc ça aussi, je pense que cette spectroscopie Raman assistée par fibre optique eh bien, offre une dimension, je dirais, intéressante pour suivre l'évolution de l'électrolyte et voir de la SEI par, bien sûr, compréhension de la nature des espèces qui vont se former. Donc voilà, si vous voulez, ce qui se passe dans ce domaine. Et enfin, je voudrais terminer parce que je vous ai parlé de l'infrarouge, je vous ai parlé du Raman, et je voulais vous parler maintenant de l'effet Rayleigh et comment on peut utiliser cet effet Rayleigh pour, là aussi, faire l'analyse sur les accumulateurs, sur les batteries. Alors pourquoi cet effet Rayleigh ? Vous allez bien comprendre tout simplement pourquoi les gens ont tenté de faire cela. Eh bien, je vais remonter pour vous expliquer cela clairement au réseau de Bragg. Rappelez-vous, ces réseaux de Bragg, c'est une fois de plus cette fibre optique, ce multiplexage. Et maintenant, vous savez, on l'a déjà vu, que si je prends une fibre optique, lorsque je vous ai montré l'absorption de la fibre optique, je vous avais dit qu'en ce cas, eh bien, l'absorption ne peut pas être minimale parce qu'il y a cet effet Rayleigh qui est dû tout simplement aux inhomogénéités à l'intérieur de cette fibre optique. Et maintenant, je fais tout simplement l'extrapolation que pourquoi pas que chaque réseau de Bragg correspond tout simplement à un défaut, c'est-à-dire un défaut Rayleigh. C'est-à-dire, je fais l'analogie là, et maintenant, ça veut dire que j'ai tout simplement une fibre optique avec des multitudes, de capteurs de FBG. Et je vais, dans ce cas, eh bien, traiter le problème de la même façon, déconvoluer mes spectres obtenus, et ainsi de suite. Et vous apercevez qu'ici, on peut, dans ce cas, là, je suis en train tout simplement d'interpréter un domaine de 5 mm, et vous avez, dans ce cas, des variations de longueur d'onde qu'on peut, dans ce cas, associer à des variations de température. Bien ça, on peut essayer de l'appliquer dans le cas des batteries, et c'est ce que je vais faire par la suite. Toujours pareil, toujours le même système, le système NVPF carbone. Vous avez ici tout simplement l'accumulateur, et vous avez la courbe de charge et la courbe de décharge. Et vous avez tout simplement la température que l'on peut déduire en introduisant, dans ce cas, la fibre optique à l'intérieur de la batterie. Mais là aussi, cette fibre optique, si je peux dire, c'est une fibre optique un peu spéciale, il n'y a aucun traitement spécial, et on peut avoir accès tout simplement à toute la partie située à l'intérieur de l'accumulateur. Et vous apercevez que je peux, dans ce cas, eh bien, avoir des très bons signaux représentant la variation de la température lors de la charge et la décharge. Et pour s'assurer de la validité, on peut comparer avec, dans ce cas, eh bien, les réseaux de Bragg qui sont indiqués en vert. Et vous voyez que les résultats, que je fasse ça soit par des mesures avec un capteur Rayleigh ou des capteurs de Bragg, eh bien, j'obtiens à peu près le même résultat, une superimposition. Alors ensuite, l'avantage, eh bien, c'est que là, je peux mettre que 5 capteurs de Bragg, alors que si je mets c'est la fibre optique et je vais chercher tout simplement tous les domaines, je peux avoir une imagerie en température beaucoup plus, je dirais, intéressante. Et en effet, c'est ce que l'on peut faire, dans lequel vous avez ici tout simplement l'accumulateur qui sont déchargés à des régimes différents, à des régimes de 10C, 5C et 2C, et vous avez ici rapporté la variation en température le long directement de ces accumulateurs. Et tout ça en fonction du temps. Et vous voyez, ce qui n'est pas une surprise, c'est que plus votre régime de charge est important, 10C, eh bien dans ce cas, je vais avoir une génération de température relativement importante. Automatiquement, c'est la raison pour laquelle vous avez ces couleurs rougeâtres, alors que dans le cas où je suis à 2C, dans ce cas, j'ai peu d'échauffement de mon accumulateur et je vois très peu le feu. Par contre, on peut également maintenant regarder le long de cette direction et on s'aperçoit que si je regarde le long de l'accumulateur dans la direction Y, eh bien, on a également un contraste entre le bas et l'eau. Et ce contraste, eh bien, je vais essayer de vous le mettre en évidence dans la transparence suivante, où je vais maintenant tracer la variation de température en fonction de la location. Et dans ce cas, eh bien, vous voyez que lorsque je suis à 10C, eh bien, j'ai quand même une variation de 6,4 degrés C le long de la direction longitudinale de mon accumulateur, et celle-ci décroît lorsque je suis tout simplement à 0,5 degrés C, lorsque j'ai des régimes de 2C. Ce qui est parfaitement cohérent avec les photos d'imagerie que j'ai mentionnées auparavant, dans laquelle j'avais l'imagerie de température de la batterie. Donc vous voyez qu'en ce cas, ces capteurs relais permettent d'obtenir une cartographie en gradient de la température long de la direction. Et cependant, ce que vous pouvez voir, c'est que le niveau de résolution spatiale en température laisse encore à désirer, car vous avez quand même une certaine incertitude entre différents, je dirais, points. Et ces différents points, ce n'est rien d'autre que des inhomogénéités au niveau de la fibre. Donc voilà, si vous voulez, ce que l'on peut faire à ce niveau. Et enfin, pour terminer, puis ça c'est vraiment la fin, eh bien, maintenant, c'est ce qui se passe aussi, d'autres types de capteurs dont on a très peu parlé, eh bien, on peut également regarder ce qu'on peut faire avec des matériaux luminescents ou thermoluminescents. Et là, des expériences qui sont en train d'évoluer ces jours-ci sont le fait tout simplement d'utiliser, dans ce cas, toujours pareil, une fibre optique, dans laquelle on va aller faire un recouvrement d'une composite qui va contenir des matériaux thermoluminescents, c'est-à-dire qui vont pouvoir me déterminer la température, et pourquoi pas, eh bien, également mettre des matériaux qui vont pouvoir être sensibles à du lithium, c'est-à-dire des sondes de lithium. Et ça aussi, ça nous permettrait de connaître l'évolution de la concentration, non seulement dans l'électrolyte, mais également au niveau des électrodes. Donc voilà, si vous voulez, à peu près tout ce que je voulais vous raconter au niveau des différentes techniques qu'il y a à ce jour pour aller prospecter la chimie dans l'environnement de la fibre optique, c'est-à-dire dans l'environnement de la batterie. Ça, c'est bon. Et la prochaine fois, eh bien, je vous montrerai une technique qui est encore plus puissante, c'est tout simplement la plasmonique. Mais vous devrez patienter une semaine encore. Voilà. Merci. Et bien sûr, comme toujours, on va prendre 10 minutes et le prochain orateur, bien que c'est Juan Pelta, qui va un peu vous faire rêver de ce qu'on peut faire dans la partie biologie et vous amener ça tout simplement dans les batteries. Voilà. Merci.